Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Chacune des nations de l'Europe possède sa littérature, mais la littérature européenne existe-t-elle ou doit-on maintenir le pluriel des littératures européennes? Et si elle n'existe pas, alors pourquoi autant d'ouvrages sur la question, autant d'œuvres qui franchissent les frontières de cette Europe multilinguiste? Apparemment, la différence des langues n'est pas vraiment un obstacle. Mais d'abord, de quelle Europe s'agit-il? À l'origine, l'Europe est une figure mythique venue d'Asie. Elle est devenue le nom et l'emblème d'un continent tout entier. Puis, dernièrement, à une date récente, d'un ensemble géopolitique à dimension variable qui ne se confond pas avec l'Europe littéraire. Et on verra que ça, c'est une idée qui s'est développée au 18e. Et je pense à la thèse de Bernard Pie qui est, elle, écrite en 2004. Pierre Brunel, notre éminent comparatiste bien connu des auditeurs de Canal Académie, et ses invités Bernard Kopp et Frédéric Toudouard sur la pierre présentent ce que les littératures d'Europe ont en commun, les grandes figures, les recherches, les avancées, et tout ça en littérature comparée. Bernard Kopp, correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, spécialiste de l'histoire de la littérature et des idées du 19e et du 20e, professeur de littérature française à l'université de Bâle, nous évoquera, entre autres, le paradoxe de la Suisse en ce qui concerne la littérature comparée. Et Madame Frédéric Touloir sur la pierre, professeur de littérature comparée à l'université de Mulhouse, elle auteur de nombreux ouvrages, dont je cite un livre parce que nous en parlerons tout à l'heure, sur l'imaginaire nordique. Elle a aussi organisé deux colloques internationaux et pluridisciplinaires sur littérature et inconscient européen. Le premier colloque, intitulé « Hypnose, esthétique, littérature et inconscient », couvre les années 1900 à 1968. Et le second colloque, intitulé « Les frontières invisibles », s'attache aux décennies suivantes, 1968-2008. Et donc Frédéric Touloir sur la pierre est à la pointe de la littérature comparée de nos jours. Et c'est bien agréable d'avoir une présence avant-gardiste dans cette série sur la littérature comparée. Bonjour madame.
Bonjour.
Bonjour messieurs, merci à tous d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie et selon l'usage, commençons par les pauses musicales. Pierre Brunel, qu'avez-vous choisi pour cette émission sur l'Europe?
Eh bien, l'une qui a été retenue, c'est Harold en Italie de Berlioz pour plusieurs raisons. D'abord, nous sommes en pleine Europe, Byron avait fait un voyage en Suisse et en Italie, qui lui avait inspiré un grand poème, Childe Harold. Et Berlioz a repris ce sujet. Et Liszt a fait une transcription de l'œuvre originale qui était pour alto et orchestre, pour alto et piano. Et c'est ce que nous entendrons ici. Liszt, vous vous en souvenez, qui a fait au fond le même voyage que Byron à travers la Suisse et à travers l'Italie, ces années de pèlerinage qui sont un des monuments du romantisme musical.
Donc ça sera la première pause.
Ça sera la première pause. La deuxième pause est plus inattendue encore. Il s'agit d'une pièce pour piano de Nietzsche, dont il sera question au cours de l'émission, Nietzsche ayant été lié à la Suisse. Nietzsche est connu pour ses relations conflictuelles avec Wagner, mais là il s'agit d'une œuvre de jeunesse, en quelque sorte, 1862, une pièce pour piano, Marche hongroise, moins connu que les rhapsodies hongroises de Liszt que Baudelaire appréciait. Et cette marche hongroise me paraît caractéristique d'un passage des frontières et donc d'une avancée européenne dans l'art musical de la part de quelqu'un qu'on n'attendait pas.
Donc, quelle Europe, Pierre Brunel? Est-ce qu'on peut dire que c'est une Europe qui, dans les premiers temps du comparatisme, celui où on parlait plutôt de littérature étrangère, se réduisait à 5 pays, Angleterre, Allemagne, Italie, France et Espagne. Mais cette ouverture inéluctable, et tant mieux, et inexorable, vraiment, que peut-on en dire, Pierre Brunel?
Alors ma réaction est qu'il s'agit véritablement d'une question et que tout est question dans ce que nous allons aborder aujourd'hui. Pour ce qui est des manuels de littérature comparée, je suis frappé par le fait qu'il y a presque toujours un chapitre pour poser la question, existe-t-il une littérature européenne? Peut-on parler d'une littérature européenne? Et cette question, je me permets de faire observer qu'elle vaut pour la littérature, mais elle vaut aussi en général. L'Europe elle-même est en question aujourd'hui. Vous avez parlé tout à l'heure du nombre des langues ou du nombre des pays représentés dans ce qui pourrait être une littérature européenne. Nous savons très bien que l'Europe, au sens politique du terme aujourd'hui, ne correspond pas à l'ensemble du continent. Et au cours des décennies précédentes, il y a eu augmentation progressive des pays intégrés à l'Europe. J'ai sous les yeux un texte que, si vous voulez bien, je vais lire. D'abord parce que ça nous permet de rendre hommage à une haute figure de l'Académie française, Madame Hélène Carrère d'Encausse. Elle a préfacé un ouvrage que j'ai la chance de posséder, publié en 1995 à l'Imprimerie nationale. C'était une commande du Premier ministre de l'époque, très peu de temps, 3 ans après Maastricht. Et cet ouvrage s'intitule « Le dessin européen », E-I-N. Voilà ce qu'écrivait Madame Carrère d'Encausse. « L'idée d'Europe, l'esprit européen sont inséparables de la vision qu'a toujours eue la France d'elle-même et de sa place sur le continent. Comment en douter au vu d'un simple regard sur les archives diplomatiques ? Sully, ministre d'Henri IV, qui sut apporter à la France la paix religieuse, était hanté par la volonté d'organiser aussi une Europe pacifiée. Le plan pour apporter la paix en Europe, qui figure dans ce livre, est un sûr témoignage de ce grand dessein. Et le traité de Westphalie, signé en 1648, près d'un demi-siècle après le règne d'Henri IV, montre une même ambition, organiser l'Europe afin que les hommes puissent y vivre pacifiquement. C'est déjà l'Europe moderne qui se dessine ainsi. Ainsi, l'abbé de Saint-Pierre ou Vergennes, qui n'a cherché au fil du temps à proposer un mode de relation au sein de la société européenne, qui assure tout à la fois la puissance et la sécurité de ce qui fut longtemps le centre du monde chrétien. Certes, les guerres sont venues de siècle en siècle briser ces espérances, et de 1870 à 1945, c'est au cœur même de notre continent que des haines durables, on les pensait même éternelles, ont fait couler le sang, mais en dépit des haines et des souffrances, ou encore à cause d'elles, et pour les conjurer, des hommes ont fait appel, guerre après guerre, à l'esprit d'Europe. Et si la Première Guerre mondiale n'a pas suffi à faire triompher l'idée d'Europe, Locarno s'efface vite dans les consciences, après la Seconde Guerre mondiale, le grand cri des survivants, jamais plus, conduit l'Europe à sa maturité. D'Henri IV à Jean Monnet et Robert Schuman, et à ceux qui ont négocié l'acte unique, le dessein européen n'a jamais été oublié. Ce recueil des documents issus des trésors des archives diplomatiques est le meilleur témoignage de la pérennité du projet européen. Et ces archives diplomatiques s'ouvrent avec un texte correspondant à l'aventure de Marco Polo, et ça s'achève avec le traité de Maastricht. C'est dire que il y a un pan immense de l'histoire qui est représenté dans l'histoire d'Europe, dans l'idée d'Europe, dans le dessin européen. En est-il de même en littérature? C'est la question que nous pouvons nous poser. Je fais quand même observer que Europe a existé avant l'Europe, puisque la princesse phénicienne Europe, enlevée par Zeus et future mère du roi de Crète Minos, est largement antérieure au point de départ même de Madame Carrère d'Encausse.
On va parler du 19e avec le roman russe de Melchior de Vogüé qui est paru en 1886. Et nous en avions déjà parlé pour la première émission de notre série, montrant le fil rouge entre Balzac, Tolstoï, Dostoïevski et l'ouverture que Melchior de Vogüé fait auprès des écrivains symbolistes en récupérant, si je puis dire ce mot pas très élégant, le roman russe.
Alors ce que je voudrais dire à cet égard, c'est qu'il y a au fil du 19e siècle, dans le cadre de la discipline à laquelle nous nous intéressons ici, la littérature comparée, une évolution très très sensible et cela touche notre sujet d'aujourd'hui. Les premiers comparatistes, qui d'ailleurs ne s'appelaient pas ainsi, comme vous savez, c'était des professeurs de littérature étrangère dans les différentes universités, s'en tenaient aux 4 pays voisins de la France. Donc les langues représentées, outre le français, étaient l'anglais, l'allemand, l'italien et l'espagnol. Et puis au cours du 19e siècle, et surtout dans la deuxième moitié du 19e siècle, une ouverture très importante s'est produite. Vous en donnez un exemple parfait avec la Russie, le livre de Melchior de Vogüé qui a eu tant d'importance.
Mais qui était à l'Académie française.
Voilà, qui était à l'Académie française. Et puis n'oublions pas aussi les grands lecteurs de romans russes. Je voudrais citer ici un exemple qui m'a beaucoup frappé parce que j'ai étudié cette question l'année dernière. C'est Romain Rolland. Hein. Romain Rolland, à l'École normale supérieure, lit à longueur de temps Tolstoï, Dostoïevski, aux grandes dames du professeur Brunetière, grand maître de l'École normale supérieure, qui, lui, ne jure que par la littérature française. Je voudrais dire aussi, et là, ce sera l'occasion d'entendre Frédéric Tudor sur la pierre, qu'on s'ouvre au pays du Nord, aux langues nordiques, à l'imaginaire nordique à laquelle elle a consacré un grand travail.
Donc les connaissances des langues est allée en s'élargissant et l'imaginaire nordique représente toute une entité que vous avez présentée.
Oui, j'ai essayé de travailler donc sur cette question de ce que j'ai appelé l'imaginaire nordique. Alors dans, finalement, au départ, mon idée, c'était, enfin, la question que je m'étais posée, c'est est-ce qu'il existe une âme nordique ? Et en fait, en donnant cette expression, de même qu'on dit est-ce qu'il y a une âme russe ? Ce qui montre bien cette tentation de rationalisation, de conceptualisation et aussi de génie artistique avec le terme d'âme. Et donc, c'est pour ça que j'avais remplacé par imaginaire. Ce qui me paraît intéressant, c'est que dans le fond, la littérature nordique permet de poser d'abord les mêmes questions parce qu'on se demandait est-ce qu'il y a une littérature nordique ou des littératures nordiques. Et aussi parce qu'elle pose la même, dans le fond, une question sensiblement identique à celle de la question russe que vous abordiez. C'est-à-dire, bien sûr, quand on est un lettré européen, est-ce qu'on lit bien sûr des auteurs russes, mais et d'une certaine manière, ça fait partie du bagage culturel. Mais dans le fond, est-ce qu'on le lit pour une altérité, pour un exotisme et une vraie différence, ou est-ce qu'on le lit parce qu'en fait, ça renvoie à des fondamentaux, finalement, qui renverraient à une culture qu'on pourrait qualifier d'européenne ? Je suis partie un peu d'une idée sensiblement identique pour la littérature nordique. Et ce qui m'a intéressée, c'était justement de partir d'une altérité. A priori, cette littérature est vraiment différente de nous. Il y a des schèmes très puissants que sont la lumière, le climat, le paysage. Je vais en donner quelques-uns rapidement. Et en même temps, on se rend compte qu'il y a des structures fondamentales, des traits de caractère, des traits de réflexion qui se rapprochent d'une culture européenne. Et ce qui est aussi également intéressant, évidemment, c'est qu'en étudiant ces littératures, on se rend compte que les écrivains nordiques se sont éminemment inspirés. D'abord, ils ont voyagé en Europe et il n'y a pas de culture nationale d'une certaine manière. C'est-à-dire leur propre culture, elle est allemande, italienne, française et donc elle est elle-même déjà hybridée, en fait. Donc,
il y a une osmose.
C'est-à-dire qu'elle est hybridée, peut-être pas tant en osmose qu'en fantasme ou en projection. C'est-à-dire un écrivain norvégien qui voyage en Europe Alors, il peut se retrouver dans la littérature germanique, il s'invente dans la littérature italienne et il trouve une forme de rationalité aussi, de beauté de la langue dans la littérature française. Et donc, il trouve différentes facettes de lui-même dans ses littératures européennes. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est que cette circulation entre, par exemple, la littérature nordique et la littérature européenne au centre étroit qu'on a pris au départ des cinq pays, par exemple, elle construit aussi une autre forme de littérature européenne. Elle étend la notion de littérature européenne. Et elle la construit en même temps, elle l'amplifie d'une certaine manière.
Oui, si on s'en tient au problème des langues, ça a déjà quelque chose de vertigineux d'envisager toutes les langues européennes. Hein. C'est Babel d'une certaine manière. Et un comparatiste au grand appétit voudrait manger tout cela. C'était le cas d'un grand maître disparu il y a quelques années que nous avons bien connu, René Étiemble, qui protestait contre la réduction aux cinq langues des premiers comparatistes, qui protestait contre ce qu'un comparatiste hongrois, en 1877, un nommé Melzel, avait appelé le décaglottismus, c'est-à-dire la réduction à 10 langues des langues européennes. Et en même temps, on se rend bien compte qu'aucune intelligence humaine ne peut posséder toutes les langues d'Europe. Et puis je voudrais dire aussi, et c'est le sujet traité par Madame Tudor sur la pierre qui m'y fait penser, qu'il ne faut pas oublier que dans certains de ces pays, effectivement, et vous l'avez signalé, la présence de la culture française et de la langue française est sensible. Il y a des Russes qui, au XIXe siècle et encore au XXe, écrivent quelquefois en français. Il y a des Scandinaves qui écrivent aussi quelquefois en français. J'ai une anecdote ici, toute récente, à vous livrer. Hier, nous avions une séance de rédaction du prochain numéro de la revue de littérature comparée. Il y a un article sur Strindberg et la correctrice a corrigé des fautes de français dans cet article. C'était des fautes qui étaient commises par Strindberg et qu'il faut laisser parce que le français de Strindberg n'était pas le français impeccable.
On voit qu'on avance et qu'au XXe siècle, les deux Europes qui tendent vers la fin du siècle à se rapprocher, du moins, oui, à se rapprocher, sinon à se réunir, parce qu'on ne sait pas jusqu'où, Et qu'en est-il pour la littérature? Et qu'en est-il aussi pour Miloš, Robert Kopp? Parce que Miloš, lui, c'est un homme polonais qui a donc, c'est pour ça que je fais le lien avec l'imaginaire nordique, un peu comme un Janus, il a l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest qui l'intéresse tout autant. Et il a écrit Une autre Europe en 1964. Et en fait, c'est aussi un prix Nobel de littérature de 1980. Et le fil conducteur de son œuvre, c'est l'exil, mais c'est le contact aussi entre les deux Europes.
Oui, l'exemple de Miloš montre bien que la littérature européenne n'est évidemment pas la même vue de France et vue de Pologne. Nous avons tendance, et c'est une tendance toute naturelle, à procéder par cercles concentriques, surtout à partir de la France. Et la citation de Mme Hélène Carrère-Dancausse l'a bien montré, les exemples sont essentiellement des exemples français et font évidemment penser à l'Europe française. Il y a eu, au XVIIIe siècle, et partiellement encore au XIXe, une Europe française. On y a fait allusion, les académies des sciences de Saint-Pétersbourg, de Gênes, de Stockholm, de Berlin, publiaient leurs actes en français. C'était la langue universelle qui, un temps, remplaçait le latin. Or, cette domination du français est évidemment liée à deux choses, à une domination économique et à une domination politique. Alors, petit à petit, au XIXe siècle, l'Europe s'est politiquement, économiquement ouverte vers l'Est, vers le Nord. Mais vu de Russie, le problème est tout à fait différent. Le problème pour les Russes, depuis toujours, est de savoir, faut-il s'arrimer à l'Europe ou faut-il regarder l'Asie ? C'est la vieille querelle depuis Pierre le Grand, la Grande Catherine, etc., etc. Et il n'y a qu'une partie de la Russie qui regarde vers l'Europe, bien entendu, et l'autre regarde dans d'autres directions, pas nécessairement vers l'Est, mais aussi vers l'Inde, vers la Chine, etc., etc. Donc, si on se place à l'endroit où se trouve un Miloš, ou même si on se place à l'endroit où se trouve un auteur allemand d'aujourd'hui, par exemple, il regardera vers le nord, vers l'est, vers le sud, et s'il procède, lui, comme nous, par cercle concentrique, ce qui est tout à fait naturel, il est évident que sa carte européenne est tout à fait différente. Et on pourrait s'amuser à imaginer des espèces de cartes imaginaires. Et ça me fait penser un peu à la carte dessinée par les surréalistes en 1929, la carte du monde. Et les pays avaient sur la carte la taille de leur importance dans l'imaginaire surréaliste. Alors, on avait par exemple une énorme Afrique parce que tout ce qui était sculpture primitive et ainsi de suite jouait un très grand rôle. On avait une toute petite Amérique parce que les surréalistes exécraient l'Amérique. On avait une toute petite Italie parce qu'ils étaient totalement anti-classiques. Breton n'a jamais mis les pieds en Italie pour protester contre l'héritage gréco-romain. En revanche, on avait une Allemagne disproportionnée, les pays nordiques disproportionnés, proportionné parce que l'imaginaire de ces pays jouait un rôle. Alors, si le comparatiste de chacun des pays que nous avons mentionnés faisait une carte de ce genre, aucune carte ne ressemblerait à une autre.
Il y a un premier problème, c'est que si on se place dans la perspective linguistique, les États-Unis devraient faire partie de l'Europe. L'Amérique du Sud devrait faire partie
l'Afrique francophone
de l'Europe. Hein. Oui, oui. C'est très difficile de réduire un continent, une littérature européenne. Et je pense que si c'est mis en question dans les livres de littérature comparée en particulier, c'est à cause de cela.
Hein. C'est aussi à cause de cela. Et le problème provient évidemment en partie au moins du fait que dans certains pays européens, dans certains plus que dans d'autres, la littérature fait partie de l'identité nationale. Si on définit une identité nationale en France, la littérature en fait partie depuis le XVIe siècle. Depuis François Ier, il y a une politique culturelle, il y a une politique linguistique, il y a une politique littéraire. Et dans la mesure où le pouvoir a partie liée avec toutes les expression culturelle et donc aussi la langue et la littérature, il est évident que le problème n'est pas le même. En Allemagne, le problème est totalement différent dans la mesure où vous n'avez pas de centre jusqu'au 19e siècle. L'Allemagne n'existe pas avant Bismarck, mais du point de vue culturel, du point de vue littéraire, vous avez un phénomène, un événement qui est celui de la réforme. Dans l'histoire de la littérature allemande, vous avez ce monument qui est la traduction de la Bible par Luther. Vous n'avez pas du tout le même phénomène en France parce que, d'abord, la France, pays catholique, le croyant ne lit pas la Bible. C'est le prêtre qui la lit pour lui et ensuite ce n'est que la Vulgate. Alors que dans les pays protestants, on a la Bible de Luther. Donc il y a une espèce d'unification de la langue, car du nord au sud, on ne parle pas du tout la même langue allemande, à travers la traduction de la Bible de Luther. Et là, c'est un élément très fort de l'identité nationale jusqu'à aujourd'hui. Regardez l'héritage des pasteurs luthériens dans l'histoire allemande récente, et même la plus récente avec tout ce qui s'est passé en Allemagne de l'Est. Donc vous avez une référence à la littérature nationale jusqu'au XVIe siècle au moins, et voire au-delà, qui fait partie de la littérature française et qui fait partie de l'identité nationale française et qui est enseignée en tant que telle. Vous avez une liste. Vous avez une liste, on peut, du nord au sud, de Rennes à Marseille, de Strasbourg à Brest, vous avez une liste des auteurs qu'il faut obligatoirement connaître, avoir lu du moins en extrait, jusqu'au baccalauréat. Vous n'avez pas du tout la même chose en Allemagne.
Oui, parce qu'en France, c'est un pays centralisateur.
Voilà, et il l'est depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne pense, c'est-à-dire le centralisme commence très tôt. La France s'est formée autour d'un projet aussi, d'un projet culturel et d'un projet de langue.
Bien sûr.
Et un projet qui était extensif ou expansif.
Évidemment.
En écoutant Robert Kopp, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au grand livre de Marc Fumaroli, « Quand l'Europe parlait français ».
Mais évidemment. Et c'est un livre qui prend la suite d'un autre livre qui est celui de Louis Réau sur l'Europe française. Et cette Europe française a été une réalité économique, une réalité politique, une réalité culturelle. Je vais vous donner un exemple. Partout, on faisait des châteaux selon le modèle de Versailles. Parce que c'était le modèle du château, c'était le château par excellence. Et dans la mesure du possible, on essayait de faire plus grand. Alors, vous allez à Schönbrunn, à Vienne, et vous voyez que c'est une réplique de Versailles en plus grand, sauf qu'elle est inachevée. On a vu tellement grand qu'en cours de route, on a dû arrêter le chantier parce qu'on n'avait plus les moyens de se le payer. Et à l'autre extrême, vous avez dans le pays de Vaud, au-dessus de Morges, dans un petit village qui s'appelle Lille, vous avez une réplique du château de Versailles qui date du XVIIIe siècle. C'est simplement une espèce de copie avec le bassin et tout. Et dans le pays de Vaud, on appelle ça le Versailles vaudois. Personne ne le connaît, sauf les locaux, et c'est mentionné dans les guides. Mais ça montre que, à la fois à Vienne et dans un village vaudois, on suivait le modèle architectural français. C'était ce qu'il y avait de mieux. On peut montrer la même chose pour la mode, on peut montrer la même chose pour la peinture, etc., etc.
Eh bien, avant qu'on parle plus de la Suisse vaudoise, romande, et puis du paradoxe suisse, on va faire une petite pause musicale. Robert Kopp, la Suisse ne fait pas partie de l'Europe aujourd'hui, et pourtant c'est un carrefour européen. L'école de Genève a eu un rôle très important à un moment donné pour la littérature comparée qui était balbutiante, donc un peu fragilisée. Et puis c'est un pays plurilinguiste, et puis c'est un pays où il y a eu Jean-Jacques Rousseau, Pourtalès, Nietzsche, on en a parlé tout à l'heure, Rilke, tout ceci lui donne une place privilégiée.
Oui, tout ceci donne à la Suisse une place privilégiée et en même temps, on pourrait dire, paradoxalement, la Suisse n'existe pas. Premièrement, elle n'existe que depuis 1848. C'est la plus jeune nation de l'Europe. Auparavant, il n'y avait que des cantons et les cantons étaient souverains. C'était de petits états minuscules qui d'ailleurs chacun faisait sa politique étrangère. Et il n'y avait que les 13 cantons et la Suisse romande, comme on dit maintenant, n'en faisait pas partie. Rousseau n'était pas suisse, il était genevois. Le mot suisse chez Rousseau n'existe pas, il était genevois. Et à la rigueur, savoyard.
Exactement, parce que quand on parle de Guy de Pourtalès, on dit qu'il est Neuchâtelois.
Il est neuchâtelois, voilà.
Il était né à Berlin, tant que je me souvienne.
Absolument, il était né à Berlin. Ensuite, il a fait une partie de sa carrière à Paris. On y reviendra, c'est un excellent exemple. Donc, la Suisse n'existe pas. C'est la plus jeune nation d'Europe, plus jeune même que la Belgique, qui date de 1830. Et ces cantons, qui étaient souverains, encore une fois, ont formé une confédération pour mettre en commun un certain nombre de problèmes qu'au niveau cantonal, on ne pouvait pas résoudre. Mais comme on était au milieu du 19e siècle, comme on était à l'époque des États-nations, il fallait essayer de construire une Suisse selon le modèle d'un État-nation. Alors, qu'est-ce qui fait partie d'un État-nation ? Regardons la France. Il faut une éducation nationale, il faut une littérature nationale, il faut une défense nationale, etc. etc. Alors, la défense nationale, en effet, on l'a construite. Même le futur Napoléon III en faisait partie, puisqu'il était capitaine d'artillerie de l'armée helvétique. Et on a aussi voulu faire une éducation nationale. Mais comme l'éducation a quand même été laissée au canton, et ça s'arrête au niveau cantonal, on a fondé tout juste l'école polytechnique fédérale. Après quoi, le centralisme en matière d'éducation a rendu l'âme, en tout cas pour un siècle. Après, on a fait le pendant à Lausanne. Et on a inventé, mais inventé de toutes pièces, une littérature suisse, une littérature romande, par exemple. Et alors, on est allé à la pêche. On est allé à la pêche et on s'est dit, tiens, oh, Calvin, à nous, Rousseau, à nous, Madame de Staël, à nous, Benjamin Constant, à nous, etc. etc. Et aujourd'hui, il existe, mais intelligemment intitulé, littérature en Suisse romande, car c'est simplement le territoire, en 4 volumes, admirablement fait par notre collègue et ami Roger Francillon, qui commence en toute simplicité avec Othon de Granson, que tout le monde connaît, bien entendu. Othon de Granson était anglais, il vivait dans le pays de Galles, et il avait dans ses territoires le château de Granson, où il épiait peut-être une ou deux fois. La moitié de son œuvre est en latin et l'autre moitié est en anglais. Mais on le met quand même au début de cette histoire de la littérature en Suisse romande, parce qu'il y a le château de Granson, tout le monde connaît le château de Granson, on s'est dit, tiens, puisqu'un seigneur de Granson a laissé quelques écritures, même en latin et en anglais, on va essayer de le faire entrer dans notre inventaire. Les Français font la même chose d'ailleurs. Regardez une histoire littéraire française, on met Rousseau parmi les auteurs français, on met Benjamin Constant parmi les auteurs français, etc. etc. J'entends l'annexionnisme dans ce sens-là, on essaie toujours de garder pour soi le meilleur. C'est tout à fait normal. Mais ça montre bien qu'à un moment donné, au XIXe siècle, à l'époque des États-nations, la littérature faisait partie de l'identité nationale. Et on le voit en Allemagne. Quand est-ce que cette littérature allemande est née avant Bismarck ? C'est avec le discours à la nation allemande de Fichte, qui était une réaction contre l'invasion napoléonienne. Tout allait bien aussi longtemps que la domination française était une domination culturelle.
Ce qui me semble aussi, ce que ça montre bien, c'est que la littérature a besoin de s'ancrer soit sur l'histoire, soit sur la géographie, mais d'une manière marquante. Par exemple, le statut de la littérature suisse, alors en même temps, moi je pense à Ramu, par exemple, et en fait, on voit quand même qu'il y a une notion de paysage, mais peut-être ce qui manquera à la Suisse pour avoir une identité forte en termes de littérature, ça serait une histoire avec un grand H, un moment historique avec un grand H. Et si on pense par exemple à l'extension de l'Europe vers l'Est, par exemple le cas hongrois me paraît intéressant parce qu'il y a une affirmation d'une littérature, ou la Pologne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la Seconde Guerre mondiale, d'une certaine manière, on pourrait se dire, va donner un moment historique tellement puissant que des auteurs comme Kertész ou Bilhabit vont comme ça s'imposer parce qu'aussi ils ont vécu des événements traumatiques, voilà, qui leur donnent d'une certaine manière une force littéraire, en fait, une sorte de légitimité et une force littéraire. Et qui montre aussi cette interaction. La littérature finalement a besoin de l'événement historique et géographique.
Oui, mais la Hongrie s'est construite par opposition à. Par opposition à l'Empire des Habsbourg, par exemple, par opposition à la domination de la culture.
Est-ce que la Pologne n'est pas fait pareil, en se construisant par rapport à l'Empire russe?
Absolument. La Suisse allemand. Est construite par opposition, mais très tôt, au Habsbourg. Mais c'est pas avec le mythe de Guillaume Tell qu'on fait une littérature. Ça ne suffit pas tout à fait, encore qu'on a essayé de le faire.
De même, Edgar Morin dit que, par exemple, la notion d'Europe s'impose par opposition à l'Empire ottoman. Donc, dans le fond, c'est aussi une opposition. Enfin, toute construction,
voilà.
Peut-être, n'est qu'une
mais
opposition.
Mais toute construction. Construction et par opposition. La construction d'une identité, la psychanalyste que vous êtes, ne l'affirmera pas. Toute construction d'une identité se fait aussi par opposition.
Une chose qui m'avait beaucoup frappé à propos de la Suisse, c'est une des premières idées qui m'est venue quand on a préparé cette émission, c'est l'exemple de Rilke. Rilke, écrivain de langue allemande, qui est allé à Moscou, mais il n'a pas écrit pour autant russe. Qui est né à Prague, qui est allé à Moscou, qui n'a pas pour autant écrit en russe. Il passe les dernières années de sa vie, pour l'essentiel, en Suisse. Il traduit des écrivains français, dont Valéry en particulier, et c'est là qu'il écrit des recueils poétiques en français.
Exactement.
Les Quatrains Valaisans, Verger, ouais, etc. Ce qui me faisait penser que c'était un lieu européen, la Suisse, et on ne passait pas par là sans être marqué par cela. Dans l'ordre musical, ce serait la même chose avec Franz Liszt. Hein. La
oui.
première des années de pèlerinage, c'est la Suisse.
Oui, c'est-à-dire les centres urbains, l'élite intellectuelle et artistique, oui. La Suisse profonde, non.
Mais partout, dans tous les pays, c'est comme ça.
C'est dans tous les pays, voilà. Alors, Rilke fait admirablement partie de cette élite cosmopolite de l'ancienne Europe, celle qu'a décrite Stefan Zweig dans Le Monde d'hier, où on passait de Paris à Berlin.
De l'intelligentsia
voilà,
d'un pays à l'autre intelligentsia.
Où tout le monde se connaissait, ou presque, et où on parlait plusieurs langues. Et c'est un des problèmes qui se pose aujourd'hui quand on parle de l'Europe, et je pense que c'est un problème qui mériterait vraiment qu'on lui consacre une, sinon plusieurs émissions à part, le problème des langues. Lorsque le général de Gaulle et le chancelier Adenauer se sont rencontrés en 1963 pour sceller la réconciliation franco-allemande, il a été dit et écrit qu'en France, on augmenterait le nombre des leçons d'allemand dans les lycées, qu'en Allemagne, on augmenterait le nombre des leçons de français dans les lycées, parce qu'il y avait auprès de ces deux dirigeants une espèce de bon sens qui disait si on veut comprendre l'autre, il faut parler sa langue.
Ça a été le cas, effectivement.
Ça a été le cas, ça a été le cas un certain temps.
Un certain temps.
Et
pas,
puis,
pas sur le long terme.
Non.
Pas sur le long
et
terme.
Sur le long terme, on est en chute libre. Alors, quand aujourd'hui, certains dirigeants français croient devoir parler en anglais et à Bruxelles et à New York, c'est proprement grotesque. Il faut apprendre la langue de l'autre pour qu'on puisse la connaître, mais on parle dans la sienne propre et on essaye d'être plurilingue. Et c'est là que le comparatiste intervient. C'est vrai qu'un comparatiste doit savoir 2, 3 ou 4 langues, quelles qu'elles soient d'ailleurs, tout en ajoutant qu'il ne faut pas se limiter. Si on peut, comme c'est le cas de Claude Agege, en connaître 15 ou 17, tant mieux, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, pour commencer, il faudrait absolument favoriser et de façon systématique l'apprentissage des langues, et il faut être pragmatique, il faut d'abord apprendre la langue de l'autre, c'est-à-dire en France l'allemand et l'espagnol et l'italien et l'anglais, c'est-à-dire ce qui est autour, et la même chose en Allemagne, et la même chose en Pologne et ailleurs.
C'est pour ça qu'il y a un souffle européen, de l'esprit européen en Suisse. En fait.
Et c'est ce que montre, c'est ce que montre David Lescaut dans une pièce qu'il a écrite, hein, qui s'appelle L'Européenne. Et donc, il essaye de réfléchir comme ça sur les tropismes européens. Et donc, ça se passe à Bruxelles. On imagine bien où ça peut se passer. Et en fait, le premier tropisme qu'il prend, c'est le tropisme des langues. Et en fait, il fait réunir, puisqu'il y a 27 pays, 27 traducteurs, plus 27 traducteurs, plus de chaque pays. Puisqu'en fait, on doit traduire d'une langue, de sa propre langue dans l'autre. Mais en fait, on doit avoir un autre traducteur pour traduire de la langue dans l'autre, dans la sienne. Et donc, il montre bien que du coup, ça crée une sorte de cacophonie et de capharnaüm et un nombre exponentiel de traducteurs. Donc, le début de sa pièce commence sur ce mode-là, qui montre quand même que cette pluralité pose, bien sûr, il faut apprendre la langue de l'autre, mais jusqu'à où ? J'apprends la langue du bosniaque, j'apprends la langue du polonais, voilà. Donc, jusqu'à quel point ? Et du coup, effectivement, on voit bien d'ailleurs qu'on se retrouve avec un italien, un espagnol, un anglais, un allemand, 9 fois sur 10, on parle anglais. Et d'ailleurs, on se comprend très bien, parce que comme on parle tous avec le même accent, du coup, il y a une concentration. Et significativement, d'ailleurs, Jean-Charles Massera a aussi écrit un texte qui s'appelle « We are l'Europe », et je trouve qu'il donne titre franco-anglais, enfin une sorte de...
C'est-à-dire, on ne parle pas l'anglais, on parle une espèce de sabir. Oui, je n'ai jamais pensé, quand j'étais dans un avion, que le pilote s'adressait à moi en anglais. C'était uniquement pour dire « attachez-vous, éteignez votre téléphone, etc. etc. » Ce n'est pas une langue, c'est un moyen de communication.
D'accord.
Quand il faut faire du commerce, quand il faut vendre de la bière ou je ne sais quoi à quoi, évidemment, c'est un anglais rudimentaire, on arrivera à s'entendre sur les chiffres, mais ce n'est pas une langue, c'est un moyen de communication. Il faut qu'on distingue entre la langue et un moyen de communication. On a tort de penser que la langue sert à la communication en littérature.
Alors l'ambition comparatiste est très grande. Je vais dire, ce n'est pas seulement une plaisanterie, qu'un des grands maîtres que j'ai connus de la littérature comparée avait suscité la plaisanterie suivante. Il est comme l'ânesse de Balaam, il parle toutes les langues. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu, je pense, un grand espoir du comparatisme à cet égard. Et c'est là que se pose, à mon avis, la question de la littérature européenne dans les dernières années. Il y a eu un grand espoir de la littérature européenne. On en a pour signe la multiplication des volumes à la fin du XXe siècle, disons dans la décennie 90. Je pense au Précis littérature européenne dirigé par Béatrice Didier, au Précis universitaire de France. Je pense au livre 420 pages de Jean-Louis Baquet, intitulé « La littérature européenne », à l'anthologie que Jacques Bersani a faite chez Hachette de la littérature européenne du XIe siècle au XXe siècle. Et je pense que 10 ou 15 ans après, cet espoir est retombé, qu'il y a eu des doutes sur la littérature européenne, comme il peut y avoir, c'est un autre sujet, des doutes sur l'Europe politique aujourd'hui. Il y a eu un grand espoir et un espoir qui s'est amenuisé.
Mais est-ce que, c'est la question que je voulais vous poser, Pierre Brunel, est-ce que cette floraison de manuels n'est pas liée à une espèce d'espoir européen et on s'est dit, tiens, on va essayer de définir une sorte d'identité européenne à travers la littérature. Et ensuite, on a compris que ce n'était pas possible et cela a en quelque sorte implosé.
Frédéric Toudoir sur la pierre, quelle est votre idée sur ce point et quelle idée actuelle, avant-gardiste, avec les inconscients, vous allez nous offrir ?
Alors c'est vrai aussi, bon, c'est vrai qu'on a vu une floraison d'ouvrages effectivement sur la littérature européenne qui montre, qui va aussi de pair avec tout un mouvement depuis le début du XXe siècle et particulièrement avec la Seconde Guerre mondiale où des ouvrages sur l'Europe sont extrêmement conséquents. On essaye de penser l'Europe et la littérature européenne. Et donc ce mouvement de volonté de stigmatiser une littérature européenne me semble participer de ce processus qui dit aussi une volonté de penser l'Europe, c'est-à-dire l'Europe littéraire, c'est-à-dire d'essayer de lui donner des outils théoriques ou des outils conceptuels pour saisir effectivement cette altérité qui va effectivement de pair avec cet espoir d'ouverture et cette réalité d'ouverture qu'on a vue. Donc justement, nous, ce qu'on a proposé, c'est cet ouvrage Hypnose, enfin, qui part d'une exposition qui s'appelait l'Europe XXL, hein, qui avait eu lieu, une exposition qui a eu lieu à Lille en 2009, qui disait bien une ouverture de l'Europe vers, notamment vers les pays de l'Est. Nous, on a essayé de penser, mais dans le fond, dans le prolongement de la méthode Europa, de dire, ben voilà, est-ce qu'il n'y a pas une origine, est-ce qu'il n'y aurait pas à penser une origine européenne, ce qu'on a appelé, on essaie de théoriser un inconscient européen, du côté de Vienne, enfin, et notamment, et en ouvrant ensuite avec la Hongrie, la Pologne, et de voir si cet inconscient européen, enfin, on est parti de Freud, hein, le fait que la psychanalyse des rêves était née en 1900 et que c'était un Viennois, que c'était à
après,
Vienne.
Il y a eu Jung.
Voilà, et Jung, d'ailleurs, vit aussi en Suisse, et d'ailleurs, Miloš, quand il écrit son livre, Une autre Europe, il est aussi sur les bords du lac Léman, ce qui montre aussi d'ailleurs que la Suisse, c'est un cas intéressant, c'est parce qu'une sorte de micro-européanisation avec aussi cette volonté théorique, c'est-à-dire qu'à la fois avec une sorte d'européanisme, c'est-à-dire une idée dans le fond qu'il y aurait une sorte de suprématie de l'Europe littéraire, de l'Europe intellectuelle et culturelle, et en même temps une volonté d'expansion qui, évidemment, la dissémine dans sa spécificité. C'est-à-dire, à partir du moment, ce qui est très intéressant quand vous ouvrez vers l'Europe de l'Est, c'est qu'à la fois, vous vous rendez compte qu'il y a des traits convergents et en même temps, ça vous entraîne vers une altérité qui n'est plus vous. Et notamment aussi, ça fait entrer une autre notion qu'on a un petit peu évoquée, mais c'est la notion politique et idéologique. C'est-à-dire, quand vous ouvrez vers l'Europe de l'Est, c'est aussi, évidemment, la question du communisme ou du rapport du bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest qui entre en jeu et qui, du coup, et c'est ce qui est intéressant aussi dans la question de l'Europe, c'est qu'elle est à la fois l'Europe littéraire ne peut pas se penser non plus sans l'Europe économique, sans l'Europe politique et idéologique. Et en même temps, elle n'est pas similaire. Et en fait, les pensées, évidemment, nous, aujourd'hui, on pense l'Europe avec ce qu'on vit de l'Europe. Et en même temps, les deux ne vont pas forcément de pair.
Il demeurait quelque chose de cela dans Une autre Europe de Miloche. Pour lui, l'autre Europe, celle qui avait connu des années de communisme et qui en connaissait encore à la date où il a écrit ce livre, ne pouvait pas être identique de l'Europe occidentale.
C'est-à-dire, tu as une série d'Europe superposées. L'Europe de Charlemagne n'a rien à voir avec l'Europe d'aujourd'hui. Et pourtant, cette Europe de Charlemagne existait. Il suffit de penser au grand livre de Ernst Robert Curtius sur le Moyen-Âge latin et littérature européenne, qui est un livre qu'on pourrait presque dire d'un résistant, écrit, commencé en tout cas à l'époque où on chantait « Am deutschen Wesen soll die Welt genesen », c'est-à-dire où, outre-Rhin, on construisait ou voulait construire une Europe allemande, lui, il voulait mettre en avant l'Europe latine. L'Europe latine qui était l'Europe chrétienne de Charlemagne, et dont l'héritage, pour lui, se prolonge pratiquement jusqu'à la Révolution française, parce que Curtius est partisan d'un très long Moyen-Âge, un peu comme Jacques Le Goff.
Et Frédéric Toudoir-Lapierre, en fait, si on veut faire une sorte de psychanalyse nationale, ça permet d'améliorer les relations entre les pays et la littérature comparée en utilisant les ouvertures de l'inconscient européen est un instrument de compréhension nationale et en fait, ça met en circulation une foule d'idées nouvelles. Et en fait, vous qui étiez un petit peu pessimiste, Pierre Brunel, l'inconscient européen et les travaux de Frédéric Toudoir-Lapierre sont porteurs d'avenir.
Oui, je pense que l'idée de littérature européenne est prise entre deux extrêmes, c'est-à-dire un attachement au pays d'origine, à la littérature nationale, et d'un autre côté, l'extension à ce qui a été appelé la littérature mondiale. Déjà, Weltliteratur de Goethe, hein, et la littérature mondiale d'Etiamble. Dans la suite de nos émissions, nous aborderons d'ailleurs ce problème de la littérature mondiale. Et alors, pour réussir à maintenir cette idée si attachante de littérature européenne, je pense qu'il faut passer par des voies qui ne sont pas seulement des voies académiques, qui ne sont pas seulement des voies universitaires ou ni même des voies de librairie, mais je pense que l'inconscient a son rôle à jouer, la place du fantasme, le besoin qui existe en nous, probablement européen, d'une littérature européenne.
Mais qu'en pensez-vous, Frédéric? Donc,
ce qui était intéressant dans ce travail, effectivement, c'est d'essayer de trouver comme ça des nœuds ou des points communs d'un inconscient européen, c'est-à-dire des idées ou des images qui nous meuvent, en fait, à notre insu. Et ce qu'on voit, par exemple, pour le dire rapidement, on voit bien que c'est une idée d'Edgar Morin, mais je trouve qu'elle est, me semble opérante parce que l'idée d'Edgar Morin, c'est de dire nos mythes, et il pense Méphistophélès, Faust et Don Quichotte, sont trois mythes constitutifs d'un esprit européen et d'un inconscient européen. Et cette idée me paraît intéressante parce que, effectivement, quand on pense l'expansion européenne et quand on pense le mouvement de globalisation et de mondialisation, on se dit, mais évidemment, du coup, où est notre spécificité? Est-ce qu'on en a une? Est-ce que ça a un sens? Et puisqu'évidemment, nous, on subit aussi une influence américaine. Et je trouvais intéressant, vous parliez aussi d'avoir le point de vue d'un Européen de l'Est, mais par exemple, le Slovène Slavoj Žižek, lui, justement, il dit l'Europe de l'Est est le reflet des ambiguïtés de l'Europe de l'Ouest. Et après, ensuite, il prend l'Europe et dit l'Europe est le reflet des fantasmes de l'Amérique. Et donc, du coup, ce mouvement de globalisation, évidemment, on voit bien qu'il y a des interactions, mais il me semblait que la notion d'inconscient européen, il ne s'agit vraiment pas de verser dans le nationalisme supra-européen, mais elle permet de renvoyer à des fondamentaux. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont dans le fond des structures mythiques, enfin c'est l'idée d'Edgar Morin et d'autres images, enfin, qui sont altérées par la guerre ou par les conflits par exemple, mais qui meuvent comme ça notre inconscient. Une autre chose qu'on avait mis en évidence, qui me paraissait aussi intéressante, c'était une théorie. Enfin, dans le fond, il y avait un fantasme. La culture européenne, elle est émue par un fantasme de négativité. C'est-à-dire qu'elle puise ses idées dans l'idée de la négation. Donc, l'Européen, c'est ce que dit Kundera dans son livre L'Art du roman, mais il prend l'exemple de l'Européen, c'est celui qui nie toujours tout. Et d'ailleurs, Nietzsche, enfin, peut-être en serait l'emblème. Et du coup, le problème, ça stigmatise l'Europe dans cette idée de la négation, qui renvoie au doute, au scepticisme et à l'énergie, mais qui aussi pose une forme d'autocritique permanente de l'Europe et qui, là, me semble un trait de notre inconscient européen.
Ou le Méphistophélès de Goethe.
Et on peut en finir en pensant à Chantal Delsol qui, dans la préface d'un traité sur la littérature comparée, parlait de l'Europe en disant, en fait, l'homme européen est un homme qui met toujours une distance, qui est insoumis, donc qui correspond à l'image que vous donnez.
Alors oui. Après, c'est vrai que ce qui est intéressant dans le fait de questionner la littérature européenne, c'est aussi parce qu'elle est un terroir d'expérimentation d'un champ culturel qui me paraît intéressant. Ça serait tout aussi intéressant de travailler sur l'Inde ou l'Asie ou l'Amérique, mais ce terreau-là, c'est un champ d'expérimentation, une miniaturisation aussi quand même d'un esprit qui me paraît particulièrement intéressante aussi, enfin pas simplement parce qu'elle est nôtre, mais aussi parce que c'est un espace très très spécifique en fait.
Un terreau.
Voilà, et c'est pour ça que c'est intéressant pour nous, comparatistes, d'interroger la littérature européenne. D'abord, peut-être pour dire, bien connaître ce dont on est issu, en fait, hein, qui me semble intéressant.
Et un passage de l'idée, vous rappeliez la thèse de Gilbert Py, l'idée d'Europe au XVIIIe siècle, à l'image qui est fondamentale dans les recherches d'hypnose. Hein. Ça n'est pas un hasard si le premier colloque est accompagné d'une exposition. Le langage pur ne suffit plus.
Eh bien, merci beaucoup. La prochaine fois, nous parlerons à une échelle internationale de la littérature comparée et le monde. Merci beaucoup.
Merci.
Merci. Merci.